Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+ ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume. J'anime l'émission que vous écoutez et qui se nomme « Votre santé, un trésor ». La précédente émission que vous avez peut-être suivie avait comme sujet « La santé, c'est quoi ?». Durant celle-ci, j'avais défini la notion de santé et ses différents aspects. Aujourd'hui, je vous propose de vous expliquer la démarche médicale. Actuellement, nous pouvons le constater, presque plus personne ne sait ce qu'est un médecin. Quel est son rôle, par exemple. Nous pouvons rajouter aussi que personne ne sait non plus ce qu'est une infirmière, une aide-soignante, une orthophoniste ou un kinésithérapeute, et je ne parle pas des multiples prises en charge psychothérapeutiques que réalisent les psychologues. Les personnes ont besoin d'un médecin traitant essentiellement pour être remboursées de leurs frais médicaux. Trop souvent, les actes médicaux sont en fait des démarches administratives qui ouvrent des droits, permettent de s'inscrire dans une association qui propose un sport. En effet, il faut, comme on le dit, comme les gens le demandent, un certificat médical. La démarche médicale est tout autre, et les médecins, même s'ils ont un rôle central, ne sont pas les seuls à intervenir. Avant tout, la démarche médicale repose sur la plainte, ou les plaintes d'un patient, sur là où les plaintes de la famille ou de l'entourage d'un patient, et cela est fondamental. La plainte d'un patient se compose de plusieurs choses. Il y a d'abord ce qu'exprime le patient, c'est-à-dire le trouble qu'il ressent. L'anormalité de ce qu'il ressent, la douleur ressentie, est de loin la première cause de plainte. Mais la plainte peut être le motif apparent du trouble du patient, le vrai motif étant caché, connu ou inconnu du patient. Nous parlons alors du motif de consultation. Le motif de consultation est ce que le patient apporte lors de la consultation comme demande, plainte ou symptôme. C'est la clé, l'entrée dans la relation entre le médecin et le patient. Les premières minutes de l'entrevue sont donc généralement consacrées à l'identification du motif de consultation du patient. Il ne faut pas qu'il y ait confusion entre la plainte du patient et le résultat final de la consultation que l'on nomme le plus souvent le diagnostic. Le patient consulte parce qu'il a, par exemple, de la fièvre, mal à la tête, qu'il est fatigué. Ces plaintes sont le motif de consultation, qui est différent de ce à quoi le médecin conclura en fin de consultation. Selon certaines études, le nombre de motifs de consultation par séance est de 1,6 à 2,2. Donc le plus souvent, un patient veut rencontrer un médecin pour plusieurs sujets et bien évidemment, cela pose des problèmes. Le praticien doit donc individualiser la plainte du motif de consultation le plus important pour le patient. Dans un premier temps, le médecin doit individualiser la plainte première et essayer de gérer au mieux les autres motifs de consultation. Il est nécessaire d'individualiser la plainte première afin que le patient ait l'impression d'être reconnu et pris en charge par le médecin. Je viens de parler des médecins. Elles et ils sont les pierres angulaires de la démarche médicale. En France, la loi française avance que seuls les docteurs en médecine peuvent pratiquer la médecine et de plus, pour la pratiquer, elles et ils doivent impérativement être inscrits sur la liste du tableau de l'Ordre des médecins français. D'autres praticiens du soin font partie de la démarche médicale. Les infirmières, les aides-soignantes, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les manipulateurs radio, les aides opératoires, les secrétaires médicales, les aides à domicile, l'ensemble des administratifs du milieu de soins. Excusez-moi si j'oublie ici des professionnels du soin et du médical. Il existe une démarche de diagnostic infirmier, kinésithérapeute, orthophoniste. Le médecin actuellement est le chef d'orchestre de ce groupe qui œuvre pour le bien du patient, mais ce n'est pas lui qui joue de la musique le plus souvent. Le recueil et l'analyse de la plainte première permettent de créer ce que l'on appelle la relation médecin-malade, malade-médecin. Cette relation, même si elle n'est pas écrite, est un véritable contrat juridique qui lie le praticien qui s'engage à prendre en charge le patient avec honnêteté et dévouement, s'appuyant sur la déontologie médicale avec le patient qui s'engage à être sincère avec le praticien et à lui régler ses honoraires ou leur équivalent. Ensuite a lieu d'une manière plus poussée ce que l'on nomme l'interrogatoire du patient, et en tout premier lieu l'anamnèse, c'est-à-dire l'histoire de la plainte, l'histoire de la maladie. C'est l'ensemble des renseignements fournis au médecin par le malade ou par son entourage sur l'histoire de la maladie ou les circonstances qui l'ont précédée. C'est obtenir des informations indicielles favorisant l'établissement d'un diagnostic. Le médecin provoque ou non la mémoire que possède le patient de sa propre histoire médicale. Il augmente ou réduit les possibilités d'associer ce dernier à l'interprétation d'une symptomatologie. Parmi les nombreux paramètres qui calibrent l'interrogatoire médical, l'anamnèse occupe une place fondamentale en ce qu'elle contient non seulement l'histoire médicale du patient, mais aussi les différents événements qui l'ont accompagné. Du grec « ana », remonter, et « mnémé », souvenir, l'anamnésis, ou action de rappeler à la mémoire, consiste à la convocation du passé afin de disposer de données historiques fournies par le patient, susceptibles d'expliquer une pathologie présente. L'anamnèse, considérée comme un aspect non négligeable de la prise en charge du patient, peut contribuer à faciliter l'émergence d'un diagnostic co-construit. En effet, une pathologie ne peut être envisagée en partant de rien, ex nihilo, comme l'on dit, mais interagit avec une situation personnelle et contextuelle nourrie de mains détails qui en déclarent les signes pour fournir une interprétation de manière quasi archéologique. La médecine emprunte une démarche épistémiologique qui se caractérise par un accent mis sur des anomalies. Les signes somatiques de la médecine ont la spécificité d'être lisibles exclusivement sur les corps, mais ils peuvent être dits au sein du discours. Aucun signe étant par lui-même un index, un indice ou un symbole, et n'étant qualifié comme tel que par un parcours interprétatif, c'est-à-dire qu'il faut le fixer, qu'il devienne l'indicateur d'une pathologie possible dès lors qu'il se manifeste d'une manière anormale ou atypique, et qu'il est repéré comme tel, notamment lors d'une consultation. Le médecin est l'interprète de cet indice. Il lui affecte une valeur qui l'élève au rang d'étrangeté, d'anomalie. Mais ce qui peut constituer une anomalie dans un contexte donné peut ne plus l'être dès lors que ce dernier change. Il faut absolument que le médecin discerne les indices qu'il recueille. Suite à l'interrogatoire et l'anamnèse sont recherchés les antécédents du patient, les antécédents personnels et familiaux. Un antécédent est un fait antérieur concernant la santé, ici celle du patient, qu'il est nécessaire de connaître pour mieux le prendre en charge. Il existe des antécédents médicaux, chirurgicaux, psychologiques, psychiatriques, toxicologiques, comme la prise d'alcool ou de certaines drogues, des antécédents professionnels, sociaux, éducatifs, scolaires. Il est aussi souhaitable de recueillir les antécédents médicaux de la famille du patient et même, pour être plus complet, de son entourage immédiat. C'est un exposé dans lequel sont consignés les maladies et les problèmes de santé dont le patient et les membres de sa famille ont souffert ou souffrent actuellement. Avoir un père ou une mère décédé d'un cancer n'est pas anodin. Faisant suite aux antécédents, il y a le recueil socio-professionnel du patient, ses démarches de travail, sa situation dans le monde du travail, ou pas, comme pour les retraités passifs ou actifs. La spécificité de l'activité professionnelle est fondamentale. Un ouvrier n'a pas eu la même vie qu'un cadre, ou qu'un enseignant, ou qu'un agriculteur. Le contexte familial est aussi abordé. Célibataire, marié, veuvage, vie en couple de même sexe ou différent, la présence ou pas d'enfants, de petits-enfants, l'existence de deuil, de possibles deuils pathologiques. Toutes ces démarches de questionnements sont essentiels au bon déroulement de la démarche médicale pour essayer d'établir un diagnostic juste sur lequel débouchera une thérapeutique. On peut aussi définir ainsi la démarche médicale. La démarche médicale qui est réalisée en début de consultation constitue donc une interaction complexe mettant en jeu pragmatisme du dialogue et convocation de modalités de communication non verbale et arrière-plan complexe où sont convoqués anamnèse, mais aussi soubassement psychologique dans lesquels différents types de stratégies entrent en jeu. Actuellement, certaines personnes trouvent cette démarche beaucoup trop intrusive, comme on aime à le dire aujourd'hui. C'est une erreur importante de leur part. Ces questionnements, où participe pleinement le patient en toute liberté, sont essentiels et nécessaires. Ils ne sont pas intrusifs, mais veulent rechercher l'indice. On pourrait dire qu'ils sont indiciels et ne doivent pas être inducteurs. Ce rejet, cette dénomination de l'intrusif font que les médecins se retiennent de poser les bonnes questions, surtout si elles sont intimes, comme sur la sexualité, et font bien évidemment mal leur interrogatoire et rendent difficile le bon diagnostic. La confiance que fait le patient en se livrant pleinement est garantie par le secret médical. Il nous faut rappeler que le secret médical n'est pas n'importe quel secret, en plus d'être un secret professionnel. Il est absolu. C'est-à-dire qu'à part quelques circonstances comme des brutalités et sévices mineurs, le médecin n'a pas le droit de le dévoiler, même devant le juge, et non plus à un confrère. Le secret médical s'impose aux autres médecins, sauf pour le bien du patient, dans une démarche de prise en charge et de projet de soins commun entre les médecins. Beaucoup trop de médecins pensent que parce qu'ils sont médecins, ils ont le droit de savoir. Ils se trompent. Le secret médical, à l'inverse du secret professionnel, qui peut être rompu par exemple devant les forces de l'ordre lors d'une enquête, devant l'administration fiscale ou devant un juge, le secret médical ne peut être révélé sauf pour le bien du patient et pour une question de survie. Il ne peut être partagé entre médecins que pour le bien du patient et dans certaines limites. L'opposition de l'absolu du secret médical peut mettre le praticien dans l'embarras, car le juge, par exemple, si on lui oppose ce secret, peut poursuivre le médecin pour entrave à la justice. Même le patient concerné ne peut lever le secret médical. Le médecin doit mourir avec ce qu'il sait sur un patient et ne jamais le révéler, sinon il est grandement condamnable. C'est une prérogative et une immense contrainte, baignée d'une immense solitude du médecin, mais c'est un des prix à payer pour être médecin. Les patients, avançant l'intrusivité des questions qui leur sont posées, peuvent donc être rassurés. Je vous rappelle que vous écoutez « Votre santé, un trésor », une émission animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus, 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+, ou sur Radio Alliance Plus. .fr et je vous propose une pause musicale en écoutant un adagio pour cordes, celui de Barber. À la suite de cette partie de la démarche médicale qui se fait à deux, le patient et le praticien, la suivante n'est réalisée que par le médecin. C'est l'examen clinique qui se compose de quatre temps. Il s'agit d'abord de l'inspection. En médecine, l'inspection désigne un des quatre temps principaux de l'examen clinique, avec la palpation, la percussion et l'auscultation. L'inspection est donc le premier temps de cet examen qui consiste simplement pour le médecin à observer le patient et à recueillir les signes et indices qui pourraient l'aider dans sa démarche médicale, comme une pâleur, une rougeur, un amaigrissement ou un surpoids par exemple. Mais l'inspection ne s'arrête pas avec la vue du praticien. L'audition pour recueillir les bruits et intonations du patient, l'olfaction pour saisir les bonnes et mauvaises odeurs du patient font que l'inspection doit faire intervenir l'ensemble des sens du médecin pour qu'il soit en harmonie avec son patient, avec et dans ce qu'il est pour récolter des signes importants. Cette composante fait que le médecin, même en dehors de sa pratique, est amené à faire des diagnostics, comme cela arrive avec des toux ou des essoufflements. Il doit alors bien évidemment garder le secret de ses découvertes ou n'en parler qu'à la personne concernée si le médecin pense que cela peut lui être utile. Faisant suite à l'inspection, premier temps des quatre temps de l'examen, le médecin va continuer sa démarche médicale par la palpation. Le médecin touche et palpe certaines parties du corps. Il doit être un expert en anatomie et anatomie du vivant, car il existe des différences entre anatomie du cadavre et anatomie du vivant, qui est une, en quelque sorte, mobile. L'étudiant doit apprendre à percevoir en profondeur les caractéristiques du corps humain. Il peut le faire par des exercices pratiques sur lui-même, par des exercices pratiques sur d'autres étudiants ou des patients, au moyen d'exercices simples visant par exemple à identifier des formes cachées sous des matériaux de textures différentes, par des exercices plus complexes de simulation. La palpation est l'un des moyens exploratoires du corps humain. La palpation fait partie des moyens de diagnostic in vivo. Elle est particulièrement utile chez les nourrissons, le jeune enfant, avec les précautions de sécurité nécessaires et indispensables, chez une personne inconsciente ou ne pouvant expliquer ce qu'elle ressent. Chez la femme enceinte, à partir d'un certain âge du fœtus, elle permet au médecin d'évaluer la position du fœtus, sa tonicité, ses mensurations, avec, précisons-le, une fiabilité moindre que celle de l'échographie. Son histoire ancienne est mal connue, mais les techniques de palpation remontent probablement à la Haute Antiquité, voire à la Préhistoire. Elles sont présentes dans toutes les médecines traditionnelles, sur tous les continents, comme en acupuncture, où il existe une palpation des pouls qui était connue en Occident et qui provient de la médecine grecque. Les techniques de palpation ont récemment été approfondies par certaines pratiques médicales, dont notamment la médecine manuelle, la médecine sportive, ainsi que la thérapie par le massage. Avec la percussion, le médecin recherche des bruits anormaux en tapant par exemple à l'arrière du dos du patient. La percussion en médecine est une technique utilisant l'analyse de la tonalité du son produit par la percussion douce effectuée par le médecin de différents endroits du corps d'un patient comme le thorax et l'abdomen. Cette méthode ancestrale est employée par les vignerons pour distinguer les tonneaux pleins des vides ou même pour estimer le volume de leur contenu. C'est le médecin autrichien Leopold Hoch-Hohenbrunger, 1722-1809, qui eut le premier l'idée de son application en médecine. Plus tard, Jean-Nicolas Corvisart, médecin de Napoléon Bonaparte, découvrit et traduisit les travaux d'Hohenbrunger. Pierre-Adolphe Pierry et Joseph Coda répandirent et raffinèrent la sémiologie de la percussion dans diverses affections cardiaques et pulmonaires. Il y a deux manières de percuter. La percussion immédiate consiste à frapper directement avec l'extrémité des doigts recourbés une zone du corps. Et la percussion médiate se pratique avec le majeur d'une main qui frappe celui de l'autre main appliqué en regard de la zone du corps à examiner. Enfin, l'auscultation est la partie de l'examen clinique qui consiste à écouter à l'aide d'un stéthoscope, auscultation médiate, ou simplement l'oreille posée sur un linge sur le thorax du malade, auscultation immédiate. divers bruits produits par les organes du corps humain, notamment ceux émis par le cœur, les poumons, le tube digestif, les carotides et les artères fémorales. Cette méthode de diagnostic médical a été mise au point par René Laennec en 1816. Elle complète les autres moyens que nous venons de voir. Parfois, le terme « auscultation » est utilisé abusivement, par erreur, et il ne le faut pas pour décrire un examen clinique. Cet examen clinique peut être complété, suivant les besoins et ce qu'il révèle, par des touchés des orifices naturels, l'examen de la bouche, de la gorge, l'examen des conduits auditifs avec un otoscope, par des examens s'appuyant sur une technologie comme la prise du poids, de la taille, des périmètres, la prise de température, de la tension artérielle. Il peut exister des examens particuliers comme des tests respiratoires, des examens des réflexes ou de la sensibilité pour un examen neurologique, des examens de la vue, de l'ouïe. L'examen clinique réalisé minutieusement par le médecin clinicien va permettre d'individualiser des symptômes du grec sumpipto, se rencontrer. Ils sont des signes qui représentent une ou des manifestations d'une maladie telles qu'ils sont observés chez un patient. En général, pour une pathologie donnée, les symptômes sont multiples. Parfois, il peut ne pas y avoir de symptômes. La maladie ou le malade est dit, dans ce cas, asymptomatique. Parfois, il n'y a que peu de symptômes. On parle alors de maladie ou maladie possymptomatique. Inversement, un même symptôme peut être souvent être attribué à différentes maladies. On ne peut donc pas conclure automatiquement qu'un symptôme, par exemple le mal de gorge, est dû à une maladie donnée, par exemple la grippe. Ce serait commettre le sophisme de l'affirmation du conséquent. Un ensemble de symptômes constitue un syndrome. Le syndrome est donc un ensemble de signes cliniques, de symptômes, qu'un patient est susceptible de présenter lors de certaines maladies ou bien dans des circonstances cliniques d'écart à la norme, par nécessairement pathologique. Le terme est issu du grec ancien de sun, avec, et dromos, course, ce qui en fait l'équivalent du moderne concours, dans le sens de concours de circonstances, qui pour sa part est dérivé du latin. Le syndrome ainsi individualisé peut faire évoquer déjà une possible maladie. C'est l'art du diagnostic du médecin, une véritable enquête policière à la Maigret, qui, ne l'oublions pas, avait commencé des études de médecine. Georges Simenon en fait de Jules Maigret un médecin des âmes criminelles, pour les démasquer. Sa méthode, qui ne veut jamais dévoiler, est en fait la méthode médicale d'un diagnostic d'une personne criminelle, et Georges Simenon, le plus souvent, nous révèle le criminel comme le plus malheureux des protagonistes de ces histoires criminelles. Ce sera un sujet d'émission que nous aborderons peut-être plus tard. Pour confirmer l'hypothèse diagnostique, et nous en sommes qu'à une hypothèse, il faut réaliser des examens complémentaires qui vont prouver ou infirmer l'hypothèse diagnostique. Les examens complémentaires sont des examens qui permettent d'affiner un diagnostic ou de réaliser un bilan d'extension, c'est-à-dire de déterminer si des cellules cancéreuses, par exemple, se sont propagées dans d'autres endroits du corps. Il en existe plusieurs sortes, dont les analyses biologiques, prise de sang, urine, frottis, ponction ou biopsie. Les examens consistent à analyser en laboratoire ou au microscope des prélèvements provenant du corps humain. Les analyses de biologie moléculaire permettent la recherche d'altérations spécifiques au niveau des gènes ou des protéines dans les cellules cancéreuses. Il y a aussi les techniques d'imagerie médicale. Radiographie, échographie, résonance magnétique, que l'on nomme IRM, CT scanner permettent de visualiser l'intérieur du corps de façon non invasive. Les examens isotopiques, PET scan ou TEP, ou tomographie par émission de positrons, scintigraphie osseuse, consiste à injecter un produit légèrement radioactif, ce que l'on nomme un isotope, dans le corps humain. Ce produit se fixe dans certains organes et dans les zones à haute activité cellulaire, ce qui est notamment le cas des tumeurs cancéreuses. Une caméra dont les capteurs sont sensibles au rayonnement radioactif va ensuite enregistrer la répartition de l'isotope radioactif dans le corps ou dans certains organes. Une image de cette répartition sera générée par ordinateur. Il existe aussi les techniques d'exploration médicale, comme l'endoscopie, la fibroscopie, qui consistent à introduire un système optique miniaturisé à l'intérieur d'un organe afin de l'examiner. Sans oublier la chirurgie diagnostique où le chirurgien réalise une intervention pour faire un diagnostic. Il est souvent nécessaire de combiner plusieurs examens complémentaires pour valider l'hypothèse et confirmer les résultats. Les uns ne prennent que quelques minutes, d'autres nécessitent une brève hospitalisation. Certains sont totalement indolores, quelques-uns sont inconfortables, voire plus ou moins douloureux. Dans tous les cas, les équipes médicales font leur possible pour en minimiser les inconvénients. Après toute cette démarche médicale, un diagnostic peut être établi. Il ne faudra surtout pas se contenter de ce premier diagnostic et rester vigilant, mettre en doute ce premier diagnostic pour ne pas passer à côté de quelque chose, comme on dit. Le médecin peut donc penser à évoquer une maladie. Après ce diagnostic posé, il faut envisager la thérapeutique, proposer un traitement ou des traitements pour cette maladie et bien évidemment la traiter et continuer à la surveiller et à surveiller le traitement. Mais avant de nous quitter, ma rubrique de fin d'émission des livres sur la santé. Aujourd'hui, la démarche médicale à la française de Gabriel Coatantiek et Paul Benayam aux éditions Hugo Sterm, qui est un ouvrage rédigé par deux praticiens et journalistes médicaux qui essaient d'expliquer au public la démarche médicale et l'envers du décor de la médecine quotidienne. Il s'adresse à chaque personne un peu curieuse et ayant eu un jour besoin d'un médecin et souhaitant comprendre quel est son mode de fonctionnement. Vous y retrouverez en partie tout ce que nous venons d'expliquer. Vous pouvez aussi lire « La prise de décision médicale, un art ou une science » de Jean-Yves de la Caffière, éditeur Lamartin, collection éthique et pratique médicale. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de Votre Santé un Trésor sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. À bientôt, je reste votre bien dévoué.
En streaming ou en podcast, toutes nos émissions sur radioalliance-plus.fr.